en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invité pour cette nouvelle émission en habit vert est neurobiologiste, morphogénéticien, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Depuis de nombreuses années, il s'intéresse à la compréhension du vivant, comment le plan, l'architecture de l'organisme des êtres vivants est déterminé, et s'intéresse plus spécifiquement à la morphogénèse du cerveau, c'est-à-dire les processus grâce auxquels notre cerveau acquiert sa forme spécifique. Alain Prochian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Avec vous, nous allons aborder vos années d'études, vos recherches actuelles et puis à venir, bien sûr. Vos activités également annexes, puisque depuis une dizaine d'années, vous travaillez à l'écriture de nombreuses pièces de théâtre avec un collaborateur qui s'appelle Jean-François Perret, qui est metteur en scène.
C'est moi son collaborateur, c'est lui qui tient la barre.
Ah voilà, alors on va inverser les rôles, mais nous en reparlerons au cours de cette émission. Et donc bien sûr, nous allons parler de vos recherches. Vous avez déclaré d'ailleurs avoir choisi la recherche par goût du jeu. Un jeu pas toujours très tendre d'ailleurs, j'imagine, puisque à un moment donné, dans les années 90, vous avez été à remettre en cause des dogmes dans le domaine de la biologie moléculaire. Et je crois que ça a mis un petit peu de temps avant de faire son chemin, et notamment vis-à-vis de vos confrères scientifiques. Il a fallu du temps pour faire accepter ces nouvelles données. Alors en quoi la recherche est-elle un jeu, Alain Prochian ?
En cela qu'elle est à la fois très importante et qu'elle engage l'individu entier, je pense, parce qu'il faut prendre très au sérieux son plaisir. C'est vraiment la chose qu'il faut prendre le plus au sérieux dans l'existence. Donc elle est gratuite en même temps. Dans l'idée de jeu, il y a quelque chose d'idée de gratuité. Mais elle est profonde. C'est une gratuité qui est difficile à supporter d'une certaine façon. Donc évidemment, il y a des enjeux. Au-delà du jeu, il y a des enjeux qui sont des enjeux sociétaux, bien entendu. Mais si je me suis engagé dans cette voie, c'est justement parce que c'est une façon de fuir la réalité du monde, d'une certaine façon, de fuir le monde réel. On est toujours rattrapé par cette réalité. Mais en même temps, oui, c'était par le goût de la spéculation intellectuelle, je crois. Oui.
Mais pas un combat.
Oh, je ne suis pas du tout un combattant.
Vous n'êtes pas un combattant.
Non. Je suis un type très, très, très pacifique.
Pourtant, vous vous démarquez régulièrement de vos confrères scientifiques. Vous n'avez pas la langue dans votre poche. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, même si ça va à l'encontre de la pensée commune.
Vous voulez dire en science ?
En science.
C'est-à-dire que j'ai eu un accident de la route. On a découvert quelque chose qu'on n'aurait pas dû découvrir. Donc, c'était très dur. Vous savez, ce n'est pas tellement drôle, en fait. Aujourd'hui, sachant ce que ça nous a coûté, je parle de mon laboratoire de façon générale, je me demande si, après avoir fait cette observation en 1989, je ne l'aurais pas simplement oublié. Parce qu'il a fallu quand même beaucoup d'années pour la faire admettre, cette observation. Et je ne suis même pas sûr que ce soit encore entièrement fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore...
Pourtant, ça y est, c'est validé par la communauté scientifique.
Mais la communauté scientifique n'est pas homogène. Je pense qu'il y a une grande partie de la communauté qui l'a avalisé, bien entendu. Mais je suis sûr qu'il y a des poches de résistance encore. Si vous voulez, j'ai un de mes collègues qui me dit « t'as été pendant 20 ans dans la doghouse ». Moi, je crois que je sens encore un peu le chenil. Ouais.
Comme je le disais, en préparant cette émission, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Mais voilà, ça se révèle être vrai. On va bien sûr aborder plus en détail cette question-là, parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé exactement de ce qu'il en est, puisqu'en fait, là, on ne met pas les mots dessus. Mais pour dire juste en quelques lignes, donc, vous travaillez sur les homéoprotéines qui régulent génétiquement la forme des neurones. Et puis, en travaillant dessus, vous êtes aperçu qu'elles étaient aussi des protéines messagères.
Oui, ce sont des facteurs de transcription. Ils font beaucoup de choses, pas uniquement la forme des neurones, mais aussi la forme du corps. Ils sont impliqués dans la régulation de morphogènes, de gènes de développement, de tout ce qui permet de faire finalement qu'une main a cette forme ici et que le pied fait des mêmes cellules, a une autre forme quand il est situé à un autre endroit. Donc, mais aussi dans la forme des cellules nerveuses, dans beaucoup d'autres choses. Mais ce que nous avons montré, c'est que ces facteurs de transcription, au lieu de rester sagement dans le noyau comme tout facteur de transcription qui se respecte, sort de la cellule et va dans les cellules d'à côté. Comme ce sont des molécules qui, pour une grande part, sont porteuses d'informations de position, c'est-à-dire si je prends une cellule dans votre corps et que je sais exactement ce qu'il y a comme facteur de transcription de cette famille, je sais d'où vient cette cellule, c'est une façon pour deux cellules d'échanger de l'information positionnelle. Et je crois que c'est ça qui m'a fasciné au départ. Maintenant, ce sont aussi des molécules qui font de la signalisation de façon plus classique. Mais c'est vrai que c'était très dérangeant. Oui. Moi aussi, ça m'a dérangé. J'en peux pas voir, mais j'ai très peu de cheveux et ils sont blancs. Je pense que c'est beaucoup lié à cette affaire.
Donc, c'est donc un élément très important lié à la construction des organes, à la manière dont ils vont se construire.
Je pense que c'est lié à la façon dont les cellules peuvent se reconnaître comme étant devant ou ne devant pas interagir entre elles.
Elles connaissent chacune leur rôle.
C'est-à-dire qu'avant d'établir, par exemple, un contact solide, elles vont échanger de l'information de position, est-ce que je dois le faire ou pas. Par exemple, dans le guidage des cellules, dans leur migration, les cellules migrent le long de chemins dans le corps, et au fur et à mesure où elles migrent, elles peuvent lire là où elles sont, et elles peuvent dire d'où elles viennent en échangeant cette information. Je crois que ça, c'est un mode extraordinairement parcimonieux et ancien de signalisation. Parcimonieux parce que, au fond, c'est quasiment de noyau à noyau. C'est-à-dire que je fais une transcription, je sors et je vais dans l'autre noyau. Elles font d'autres choses que réguler la transcription, elles régulent aussi la traduction. Mais c'est un mode très ancien qu'on trouve chez les plantes, qu'on trouve chez les animaux, et donc devait être présent chez les premiers organismes multicellulaires, bien avant que les autres modes de signalisation n'aient été inventés dans chacun des embranchements, qui ont probablement été recrutés plus tard pour donner ce qu'on appelle de la robustesse à ce mode de signalisation. Donc c'est un petit peu ça l'idée qui nous guide, parce que ça reste une idée, d'une certaine façon, c'est toujours des idées. Hein. Il y aura des pans qui seront modifiés, forcément. Mais je crois que c'est essentiellement ça, un mode parcimonieux, extrêmement ancien, ancestral, voire de communication cellulaire, qui depuis le temps a été rendu plus robuste par le recrutement d'autres mécanismes de signalisation. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, oui.
Une découverte qui, j'imagine, pourrait ouvrir la voie à des traitements pour notamment la reconstruction d'organes lésés, ou alors de maladies neurologiques.
Oui, c'est toujours difficile de dire des choses comme ça, parce que, comme je suis un joueur, j'essaie d'éviter de dire ça, mais en fait, oui, je crois très 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 fortement que les travaux qui sont faits dans mon laboratoire et en collaboration avec d'autres laboratoires aujourd'hui, en particulier avec un laboratoire qui est à Harvard, qui est dirigé par mon ami Takao Hench, nous indiquent que certains de ces facteurs de transcription qui sont importés par des cellules très importantes dans la cognition pourraient jouer un rôle dans la régulation des processus cognitifs. Oui, j'en suis assez convaincu même. Au point de développer un programme là-dessus aujourd'hui. Oui.
Sur Parkinson, par exemple ?
Plutôt sur les maladies, je dirais, de la cognition. Sur le Parkinson, c'est autre chose. Sur Parkinson, c'est effectivement, on a des modèles de Parkinson. Alors ça, c'est un de ces facteurs de transcription qui est exprimé dans ces cellules qui meurent dans la maladie de Parkinson. Par exemple, les neurones dopaminergiques du cerveau moyen, du mésencéphale. Et ce qui a été démontré par des collègues de mon laboratoire, c'est que comme ces protéines peuvent traverser les membranes, si on les ajoute, elles rentrent dans les cellules, et alors elles sont protectrices dans trois modèles animaux de maladie de Parkinson. Oui, donc, mais là, c'est plutôt l'outil biotechnologique, si vous voulez. Ce n'est pas la signalisation per se. La signalisation implique que je suis actif dans la cellule d'à côté, pas chez moi. Voilà.
Et sur les maladies cognitives, alors, vous faites référence?
Je fais référence à quelque chose qui est très important dans le développement du cortex, qui est la maturation d'une classe de neurones qu'on appelle les neurones parvalbumines, qui sont des petits neurones qui sont les couches 3 et 4 du cortex, et dont la maturation permet d'augmenter, je dirais, l'inhibition corticale. C'est-à-dire qu'il y a une balance entre excitation et inhibition dans le cortex. Alors, la maturation de ces neurones entraîne une augmentation de l'inhibition qui est absolument fondamentale pour tous les processus cognitifs. Il se trouve que l'internalisation d'un facteur de transcription qu'on appelle OTX2 par les neurones parvalbumines dans le cortex visuel, pour l'instant, eh bien, est nécessaire et suffisante à la maturation de ces petits neurones qui sont vraiment très très importants pour tout ce qui est cognitif. Donc voilà, est-ce que ça existe dans d'autres régions du cortex? Eh bien écoutez, on y travaille très sérieusement. Mais on trouve cette protéine dans d'autres régions du cortex et elle y est importée, elle n'y est pas fabriquée sur place. Ça c'est une des choses importantes. Oui.
Et ça ne vous donnerait pas l'envie de créer une start-up justement pour travailler encore plus
Moi,
sur ces questions?
J'en ai déjà créé des start-up. Mm-hmm. J'en ai créé deux. J'en ai créé une qui était revendue, voilà, et j'en ai créé une deuxième l'année dernière, oui. Bien sûr, oui, ça m'intéresse. Hein. C'est une autre façon de voir les choses. C'est intéressant de mettre en place comme ça une idée au départ, et puis d'essayer de l'amener le plus loin possible, y compris dans le domaine des applications médicales. Mais c'est quand même le côté cognitif qui m'intéresse le plus, c'est quand même la recherche fondamentale, voilà.
Alors, revenons, si vous voulez bien, sur ces années d'études. Vous avez travaillé notamment au contact de Jacques Lovinsky. Jacques Lovinsky, qui est ancien administrateur aujourd'hui au Collège de France, qui est aussi votre confrère à l'Académie des sciences. J'imagine que ça fait partie des personnes qui ont aiguillé votre parcours. Quels étaient vos rapports avec Jacques Lovinsky?
Très affectueux et en même temps conflictuel. C'est un grand passionné, c'est pas comme moi, un homme froid. C'est lui qui m'a fait comprendre les neurosciences, parce qu'avant, je travaillais sur le virus de la mosaïque jaune du navet. Donc, on était quand même très, très loin. Hein. C'est là que j'ai fait ma thèse, sur le navet, enfin, sur les ARN. Mais j'avais envie de faire des neurosciences, et Jacques a été extraordinairement généreux. Il m'a donné un laboratoire. Vraiment, hein, j'avais... je ne sais pas, 26 ans, 27 ans, et il m'a laissé les mains libres, quasiment. Donc, c'était assez extraordinaire, d'une certaine
façon. Mais aussi
façon.
Un challenge, j'imagine, parce qu'il ne fallait pas
décevoir. Oui, un gros challenge, au deuxième sous-sol du Collège de France, à côté de l'animalerie, ça sentait très, très mauvais. Oui, je dois reconnaître qu'il était très généreux. Et on a toujours eu des rapports à la fois conflictuels et extrêmement amicaux. Il y a quelque chose de passionné entre nous. C'est une vraie amitié, voilà.
Ça a duré pendant une dizaine d'années, puis après, vous vous êtes échappé.
C'est-à-dire qu'après, je me suis échappé, oui. C'est-à-dire que c'est une amitié un tout petit peu étouffante par certains aspects. C'est-à-dire que je voulais développer cette histoire de facteur de transcription. Et je pense que Jacques, ça ne l'intéressait pas, mais il avait raison, c'est son laboratoire. Donc, il m'a dit, si tu veux faire ton truc, ouvre ton magasin. Donc, j'ai dû ouvrir mon magasin à l'école normale. Et là, j'ai pu développer ce projet très difficile, très, très difficile, à cause de justement du fait qu'il n'était pas bien accepté. Mais on est resté 20 ans à l'école normale, 19 je crois à peu près, et puis les choses se sont un peu calmées du point de vue des sciences, enfin, du côté de l'acceptation. Et quand j'ai été élu au Collège de France, en 2006 ou en 2007, j'ai accepté de revenir au Collège de France pour y monter un laboratoire, même un centre de recherche. Et je suis très content d'avoir pu faire ça, parce que c'est très intéressant aussi de monter un centre de recherche pour que des gens plus jeunes, il y en a beaucoup maintenant et de plus en plus, puissent avoir la chance que j'ai eue quand on m'a donné la liberté de travailler.
Alors c'est curieux, puisqu'effectivement vous nous le disiez en démarrant cette émission, que ça n'a pas toujours été facile de faire valoir justement vos recherches, que vous-même avez été un peu surpris par la découverte que vous aviez faite, et de pouvoir revenir après
une observation
au Collège
à
de France. Oui.
Vous savez, il faut plusieurs dizaines d'années peut-être, en tout cas là 20 ans, pour transformer une observation en découverte. C'était une observation, qui était extraordinairement dérangeante. Elle bouleversait pas mal de dogmes, en fait.
Pourtant, vous l'aviez quand même publié dans des revues prestigieuses.
Oui, mais je suis assez tenace. Ça prend du temps de publier ce genre de travail, mais je pense que j'ai eu la chance d'avoir une équipe extrêmement soudée. Enfin, moi uniquement qui suis tenace. C'est-à-dire que j'ai des collègues dans le laboratoire, Michel Volovitch, Alain Joliot, et des étudiants tout à fait extraordinaires, qui ont fait que ça a été possible. Mais ils ont été très courageux. Voilà, donc on a eu de la chance, quoi. On a eu de la chance. Enfin, je ne sais pas toujours si on a eu de la chance. Il y a des jours, je me dis qu'on n'a pas eu de chance, mais voilà, c'est comme ça.
Quelles sont les autres personnalités comme ça qui ont un peu jalonné votre parcours
en science?
Oui, en science. J'allais dire chez les vivants, parce que je sais que vous allez me reparler de Claude Bernard.
Oui, j'allais vous parler des morts, je veux dire Claude Bernard, Turing, etc. Chez les vivants, quelqu'un comme Nicole Le Douarin était quelqu'un d'important pour moi.
Vous aviez travaillé avec elle?
Non, mais on a beaucoup conversé. Des fois, on n'était pas d'accord du tout. Des fois, elle me regardait en disant « Rochon, j'espère qu'on ne fait pas que ça dans votre laboratoire. » comme ça. Mais elle a toujours été un support, un vrai support pour moi.
Alors, pour nos auditeurs, rappelez que Nicole Douarin a travaillé, travaille encore d'ailleurs, je crois, sur les cellules souches.
Sur les cellules souches, sur l'embryogenèse, surtout, quelqu'un qui était assez important. Quelqu'un qui était très important aussi, c'est Walter Gehring, qui était au Biosyndrome à Bâle. Et j'avais envoyé le premier papier et il m'avait dit « Young man », j'avais 40 ans quand même. Parce que quand on a fait cette observation, j'avais 40 ans. J'avais déjà une carrière derrière moi. Et c'était un changement un peu brutal, je dois dire. Mais il m'a dit « Young man, if it's true, you'll be famous ». Et il a refusé l'article, il était rédacteur en chef. Mais après, je l'ai appelé et on a discuté. Il m'a dit « C'est ça que vous devriez faire, c'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez le démontrer, il faut faire telle et telle mutation. » Et je l'ai écouté, on a fait tout ce qu'il a dit. Et ça a été pour moi un soutien tout à fait important, Walter. Oui, ça a été bien. Il a vraiment eu l'attitude qu'il fallait. C'est-à-dire me mettre en garde contre une précipitation un peu juvénile, d'une certaine façon, même si à 40 ans, vous pouvez penser qu'on est plus juvénile. Mais si vous aviez aujourd'hui l'âge que j'ai, vous considériez qu'à 40 ans, on est juvénile. Et en même temps, il a été capable de me dire ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Donc, on l'a écouté, on a fait, et voilà. Sinon, qui d'autre? Denis Duboul a été aussi quelqu'un d'assez important pour moi, parce que je pense qu'il y a une vraie amitié qui s'est créée entre nous. Voilà, oui. Je ne veux pas en oublier, parce que dès qu'on en dit quelques-uns, on en oublie d'autres. Mais oui, comme ça, vous me demandez spontanément, oui, je vous dirais, voilà, ces gens-là ont été importants. Oui.
Beaucoup de scientifiques font leur postdoc aux États-Unis. Vous êtes parti, vous aussi, aux États-Unis. Vous avez fait des rencontres particulières là-bas.
C'est-à-dire que c'est un peu différent, parce que quand je travaillais sur le virus de la mosaïque jaune du navet et son ARN, j'ai fait ma thèse à moitié à la Faculté des sciences, à Paris 7, et au MIT, dans un département de chimie, chez quelqu'un qui s'appelait Uttam Rajbandari, d'ailleurs que j'ai revu récemment, qui est toujours à MIT, comme émérite, mais toujours actif. Donc j'avais passé pas mal de temps là-bas. Et quand je suis rentré, je me suis installé à Paris tout de suite, donc dans le laboratoire de Jacques Levinsky comme premier postdoc. Et après, je suis reparti aux États-Unis, mais uniquement pour un an, à NYU, où j'ai rencontré quelqu'un qui était toujours aussi d'un grand soutien pour moi, qui était Michael Chelansky, qui était le directeur du département de pharmacologie à NYU et qui est maintenant et toujours, je crois, chairman du département de pathologie et biologie cellulaire à Columbia University. C'est un ami, vous voyez. Bon, de toute façon, je n'ai que des amis.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous n'avez que des amis
oui,
dans le monde scientifique.
Je n'ai que des amis dans le monde scientifique.
Même si on vous a mené à la vie dure.
J'en suis bien sorti. Non, c'est normal. Vous savez, je ne suis pas du tout amer sur cette partie parce que d'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vraiment. Et ensuite, parce que si quelqu'un donne une idée qui est un tout petit peu bizarre, ce qui était notre cas, il est normal qu'on lui fasse la vie dure parce que sinon, tout le monde écrirait toujours n'importe quoi. Donc, si on vous fait la vie dure, ça vous oblige à aller pousser votre système le plus loin possible.
Mm-hmm.
Et je pense que ça, c'est très positif. Donc, vous ne m'entendrez pas me plaindre, même si ça a été parfois un petit peu... On râle, quoi. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que ça a été possible parce que le système qu'on avait à l'époque le permettait. J'ai rencontré auprès du CNRS, par exemple, une aide extraordinaire. À l'École normale supérieure, une aide extraordinaire. Parce qu'on avait des crédits qui étaient stables, qui étaient récurrents, et à partir du moment où il y avait une confiance entre le directeur du laboratoire et le directeur, par exemple, du département des sciences de la vie au CNRS, eh bien, ça pouvait marcher, c'est-à-dire qu'on n'était pas mis de côté. Aujourd'hui, où le mode de financement est beaucoup plus contractuel, et où on a déclaré la guerre de tout le monde contre tout le monde pour avoir les crédits, alors c'est un petit peu, si vous voulez, le sens commun et la majorité qui l'emporte. Quand on est un tout petit peu off-Broadway, comme ça m'est arrivé... Ben, le sens commun n'est pas avec vous. Donc, je ne suis pas du tout sûr. Je ne veux pas me plaindre. Je pense qu'on a eu énormément de chance et qu'on s'est beaucoup amusé et qu'on a peut-être fait une découverte intéressante. Peut-être, hein, parce que tout ça peut toujours être remis en question du jour au lendemain. C'est ça qui est beau dans la science. En même temps, je pense que ce n'a été possible que par un système qui, malheureusement, je pense, est en train de disparaître.
C'est-à-dire, on vous laisse votre chance et puis à vous de faire vos preuves.
Aujourd'hui
ou... Non, à l'époque, vous avez fait...
Bah, à l'époque, il y avait une grande liberté, justement, dans la recherche.
Qui aujourd'hui n'est plus possible parce qu'on voit déjà les crédits, justifier les crédits par des publications, des découvertes régulières.
Oui, et puis la demande sociale, et puis toutes ces histoires, et puis des contrats de courte durée qui impliquent forcément, comme sont les... Il y a une forme de licenquisme rampant, c'est-à-dire qu'on va vous demander de travailler sur le cancer ou l'Alzheimer, où il y aura plus d'argent sur ces questions-là, qui sont des questions importantes. Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas contre-productif. Vous voyez, par exemple... Pour moi, les deux grandes découvertes de ces dernières années, c'est l'instabilité des génomes et les ARN interférentiels, qui ont des implications incroyables dans le monde médical. Et la première chose a été découverte par Barbara McClintock, qui s'intéressait à la couleur des grains de maïs dans l'épi, et la deuxième par la couleur des fleurs de pétunia. D'accord ? Et je ne crois pas qu'un plan Alzheimer aurait financé des recherches sur la couleur des fleurs de pétunia.
Vous voulez dire qu'on oublie, recherche pour la recherche ?
Voilà, et il faut être très très prudent de ne pas... Bien sûr qu'il faut des recherches sociétales, bien sûr qu'il faut prendre en compte toutes ces maladies qui sont graves, le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson, la schizophrénie. Mais en même temps, on ne sait jamais d'où ça va venir. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est avoir les meilleurs chercheurs possibles et la plus grande liberté laissée aux meilleurs chercheurs possibles. Voilà.
Vous voulez dire qu'on oublie un peu le principe même de la recherche, c'est que justement on ne sait pas ce qu'on cherche.
Ben, je ne sais pas, moi, vous savez, je ne suis que chercheur, donc je n'ai pas d'idée tellement sur la question. Je crois qu'il faut être capable d'attirer dans la recherche les gens les plus intéressés, ceux que ça amuse, qui sont forts, bien les former, et puis les payer correctement pour qu'ils restent en France, et puis les laisser travailler, leur donner les moyens de travailler. Et les évaluer, bien sûr, mais pas tous les jours, disons tous les 5, tous les 6 ans, quelque chose comme ça. Moi, aujourd'hui, quand je... On ne parle plus de mon travail, mais de mon métier, mais ça me passionne quand même. Et aujourd'hui, quand vous voyez une jeune femme ou un jeune homme arriver dans un laboratoire et que vous vous rendez compte qu'ils sont absolument formidables, vous vous demandez si vous leur rendez service en leur disant de faire ce métier. Voilà, on est un peu inquiet pour eux, quoi.
Vous souhaitez travailler justement à l'étranger ou c'était un choix de rester en France ?
J'ai eu la possibilité deux fois. J'ai deux offres à Columbia University.
Que vous avez refusées ?
Une fois en 85, une fois en 2006. En 85, non, je voulais rentrer en France. Et en 2006, c'était ça. Si je n'avais pas été élu au Collège de France, je pense que je serais parti, oui. Parce qu'il y a la question de la retraite, malgré tout, qui joue. Et comme j'avais pris un grand retard scolaire dans mon programme de travail, puisque, en fait, j'ai commencé mon champ de recherche qui m'intéressait vraiment à l'âge de 40 ans, donc, et puis ça a pris du temps, comme je vous ai expliqué. Bon, il fallait que j'aie un petit peu plus de temps devant moi. Et pour ça, les États-Unis, c'était bien. Mais le Collège de France, c'est pas mal parce que ça donne une retraite un petit peu plus tardive aussi. Puis bon, ça m'a donné confiance en moi. Hein. Oui, donc j'ai décidé de rester en France, oui. Je suis très content parce que j'aime bien travailler pour ce pays qui est un pays merveilleux malgré tout, donc avec tous ses défauts. Donc, enfin, qu'est-ce pays est sans défaut ? Voilà.
Vous écrivez aussi beaucoup d'ouvrages, notamment chez Odile Jacob. Puis parallèlement aussi, vous collaborez,
aussi, au PUF aussi, chez Hachette aussi, pas uniquement chez
Odile Jacob. De maisons d'édition. Vous travaillez aussi à l'écriture, à la co-écriture de pièces de théâtre. La culture scientifique, c'est quelque chose qui est développé, je crois, dans les pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui nous manque ici, en France.
Je crois que oui, pour des raisons. D'abord que le monde est un monde scientifique. Il faut quand même se rendre compte du fait que nous sommes entourés d'objets technologiques, d'objets scientifiques, et on a toujours une culture qui est pré-scientifique, quasiment. Les gens qui nous gouvernent, qui sont des gens tout à fait respectables et sympathiques par ailleurs, ont quasiment aucune culture scientifique. Ils peuvent être financiers, ils peuvent être énarques, ils peuvent être administrateurs, ils peuvent être tout ce que vous voulez, mais des gens qui ont une idée de ce que c'est que la science et la technique, il y en a très peu. Or, c'est très important. Ça a des conséquences importantes. On parlait des OGM tout à l'heure, en privé, entre nous. C'est une question importante, la question des OGM. Mais il faut être capable d'en appréhender tous les aspects. Hein. La privatisation des semences, ça peut être un problème politique important. Développer des plantes qui poussent dans le Sahel, ça peut être aussi quelque chose d'important. Donc, il faut voir tout ça et je ne suis pas sûr que les dirigeants en soient capables. Et en même temps, je ne suis pas du tout sûr non plus que les gens qui ne sont pas des scientifiques aient ce goût de la culture scientifique. Le jour, j'entendais Serge Haroche, qui vient d'avoir le prix Nobel, qui nous disait au collège... Quand on va dans un dîner en ville, ce qu'il fait très rarement, moi aussi d'ailleurs, vous trouverez toujours des gens qui sont fiers de dire qu'ils n'ont aucune culture scientifique. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui dit qu'il est fier de ne pas avoir lu un bouquin. Voilà. Donc, ça résume tout. Hein. Or, la culture scientifique, il y a des enjeux formidables. Regardez l'atome, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, il y a quand même eu Hiroshima. Donc, je crois qu'il y a derrière ça des enjeux de société qui font qu'il est bon que le peuple, d'une certaine façon, mais pas de façon populiste. Oui.
Parce que c'est un terme d'ailleurs que vous n'aimez pas, le terme de vulgarisation scientifique, c'est quelque chose qui vous
donne des,
voilà, une réaction épidermique.
Je déteste ça parce que c'est... Oui, les cours au Collège de France sont des cours qui sont faits pour tout le monde, mais qui en même temps sont faits pour monter le niveau, pas pour le baisser. J'aime bien justement à cause du théâtre et de ce que j'ai fait avec Jean-François Perret, qui est un grand metteur en scène, qui s'intéresse justement dans les sociétés actuelles à ce qui s'y passe aujourd'hui et pas ce qui se passait avant la révolution soviétique, si vous voulez. Donc, si je fais référence au théâtre... Le théâtre, ce n'est pas une chose pour distraire. Il y a une époque, et je le dis dans l'introduction de Qu'est-ce que le vivant, justement, parce que je pense que c'est une bonne métaphore et un bon exemple. Il y a un moment où au Théâtre National Populaire, il y avait Villard. Il y a un moment où dans les banlieues, on a construit des théâtres comme MC93, où on joue des pièces difficiles et qui ne s'adressaient pas à l'élite. C'est-à-dire que l'idée, c'était de monter le niveau. Et aujourd'hui, sous prétexte d'être démocrate, entre guillemets, ce qu'on fait, c'est qu'on est populiste. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'élite, qui se parlent entre elles et qui est au fond une caste. Et puis, on fait du divertissement pour les autres. Et ça, on voit ça chez les meilleurs gens, y compris chez des gens qui sont très bien intentionnés. Ils sont de gauche, entre guillemets, d'accord ? Ils pensent que la culture, c'est d'être aussi quelque chose de populiste. Et moi, je suis très attaché à l'idée de monter, de ne pas être condescendant. Alors, c'est difficile, bien entendu.
Et en même temps, il ne faut pas faire peur, parce que sinon, ça ferme justement les portes à un public qui... À la base, serait potentiellement intéressé, mais se dit non, finalement, ce n'est pas pour moi. Parce
je pense
que
qu'ils
n'ont pas.
Parce qu'on leur dit que ce n'est pas pour eux. Mais je vous assure que venez voir les amphithéâtres au Collège de France. Ce n'est pas la panacée, le Collège de France. Bon, il faut prendre les choses avec une certaine distance quand même. Mais il reste qu'il y a un gros effort pour à la fois instruire sans baisser le niveau. Et ça, c'est presque le programme national de la résistance, d'une certaine façon. Moi, je n'aime pas beaucoup le tournant qui a été pris de dire on va divertir. Bien sûr qu'il faut divertir. En même temps, il faut donner accès aux choses qui se font aujourd'hui et qui peuvent paraître difficiles, mais qui, somme toute, ne sont pas si difficiles que ça. Voilà. Si on sait les expliquer.
Et justement, si on sait les expliquer, c'est pas forcément évident aussi de s'adapter à son public sans pour autant faire du divertissement comme...
Oui, mais il faut leur donner le goût de la chose. Non, je crois que c'est un... On ne peut pas se laisser à la facilité qu'on fait ce genre de travail. On ne réussit pas toujours, hein, ça rate toujours. Moi, je peux vous dire, j'ai raté tous les livres que j'ai écrits. Mais bon, comme disait Beckett, « fail better ». À chaque fois, il faut se tromper mieux, voilà, se casser la figure mieux. C'est ça la recherche aussi, « fail better », voilà.
Alors, aujourd'hui, vous vous définiriez comment ? Comme généticien, écrivain, philosophe ?
Non, scientifique, moi je me définis comme un vrai scientifique. La science, c'est quand même ma vie. Mais je ne suis pas pour cette séparation de la science et
du
reste.
Vous êtes très ouvert quand même vers les autres disciplines.
Je crois qu'à la fois, je suis pour la spécificité des disciplines. Je pense que, par exemple, le terme de pensée n'a pas la même signification en philosophie et en biologie. Donc je suis tout à fait pour que les champs théoriques soient séparés. La physique, ce n'est pas la biologie, même s'il y a des bords, même s'il y a des coopérations, même s'il y a des interpénétrations, et même si ces bords peuvent changer avec le temps, bien entendu, parce que les choses évoluent. Hein. Ce n'est pas des religions, les sciences, c'est des théories qui évoluent. Je suis à la fois pour cette indépendance, et en même temps, dans une conversation entre amis, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut de la conversation entre les différents champs disciplinaires. Et ce que j'essaie, c'est d'entretenir, à mon humble et petit niveau, cette conversation, qui est aussi une conversation entre moi et moi. Vous aussi, j'imagine, si vous faites un peu de sport le matin, ou si vous avez une insomnie la nuit, que vous regardez le plafond, voilà, c'est pas toujours rigolo, quoi. Mais il y a une conversation entre soi et soi qui... Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, c'est quand même la science, honnêtement, qui est le moteur de ma vie. Voilà. Public, bien entendu.
Alors, dans les années à venir, vous poursuivez, bien sûr, vos cours au Collège de France. Vous allez poursuivre l'écriture de pièces avec Jean-François Perret.
Ça dépend. Si on trouve des financements, oui, certainement. Parce que ce qui se passe en science se passe partout. C'est un effet de la mondialisation, d'une certaine façon aussi. Pas la mondialisation au sens où c'est bien la mondialisation en science. Il y a toujours eu de la mondialisation en science. Vous savez, Kepler lisait Galilée. Descartes aussi, même s'il n'en a pas fait le même usage. Mais je parle de cette façon d'introduire de la violence compétitive de façon assez médiocre, finalement.
Une rentabilité.
Voilà. Et donc, oui, si je peux continuer, oui, j'aimerais bien continuer. Mais enfin bon, aussi, il faut voir si mes neurones veulent bien continuer avec moi. Parce que bon, il n'y a pas de raison que ça ne se détériore pas dedans comme dehors. Donc, il y a un jour où j'espère que quelqu'un me dira « Oh là !» Voilà. Peut-être que le jour est déjà arrivé et passé, que personne ne me l'a encore dit. Ce serait vraiment embêtant.
Personne n'ose vous le dire encore.
Voilà, peut-être que personne ne me le dit, me dire « Oh là là !»
Le développement de votre start-up également.
Moi, je ne suis que actionnaire là-dedans. Mais oui,
j'imagine quand même que c'est votre bébé que vous aimeriez bien voir.
C'est pas mon bébé, non, c'est le bébé de quelqu'un qui s'appelle Bernard Gély, qui a la gentillesse de s'intéresser à ce qu'on fait et de penser que ça peut être utile. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de mener cette histoire de transduction du signal par facteur transcription le plus loin possible. Le plus loin possible. En particulier du côté de la compréhension de phénomènes comme les maladies psychiatriques. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus. La cognition, d'une certaine façon, mais vu de ce point de vue, du point de vue, qu'est-ce que ce nouveau mode de signalisation peut nous enseigner sur la question de la cognition animale.
Donc, du coup, vous avez petit à petit un petit peu dérivé justement sur ces questions-là.
Ah oui, j'ai shifté, oui, oui. Mais ça, c'est l'intérêt des cours au Collège de France. C'est-à-dire que tous les ans, il faut enseigner quelque chose de nouveau. Alors, la première année, c'est facile, la deuxième, ça va, puis après, le fond de sauce s'épuise. Et donc, vous êtes obligé d'aller chercher... vous savez, les professeurs en fac, ils gardent le même cours, ils changent d'étudiants. Nous, on garde les mêmes étudiants, on change de cours. Donc, ça a l'air de rien, mais... Au début, moi, je rigolais, on m'a dit, quand tu vas voir, c'est difficile. En même temps, c'est très stimulant, parce que ça vous empêche de rester sur votre sillon, quoi. Vous êtes obligé d'aller regarder un petit peu à l'extérieur. C'est vrai que ça m'a fait changer quand même, deux fois déjà, quand même pas mal de choses dans la conduite du laboratoire, oui. Alors, pour revenir à l'histoire du théâtre, oui, j'espère qu'on va continuer, mais il y a des problèmes de financement. Excusez-moi de revenir à ça, mais il y a des problèmes de financement. J'espère que le populisme n'empêchera pas que cette recherche, parce que c'est du théâtre expérimental, continue aussi et que mon ami Perret pourra faire son boulot, quoi. Voilà, comme nous, on essaye de faire le nôtre. Mais bon, c'est toujours un combat, ces trucs-là.
Et dernier point, donc, je crois que vous avez aussi un pied au sein de la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM. Comment avez-vous été amené à avoir un pied justement dans cette fondation?
Moi, j'ai un petit pied. J'aime beaucoup la FRM. D'abord, j'ai été dans le conseil scientifique il y a très longtemps. Ensuite, j'étais de nouveau dans le conseil scientifique dont j'ai assumé la présidence. Et maintenant, je suis président du comité de la recherche, c'est-à-dire le comité qui conseille sur les programmes. Et aussi membre du conseil de surveillance. Donc effectivement, j'ai un pied dans cette maison. J'aime cette maison parce qu'elle est dirigée par des chercheurs, c'est-à-dire qu'elle est très au contact de la recherche. Donc, ils sont très à l'écoute dont a besoin le milieu de la recherche. Et très souvent, ils prennent des décisions qui sont très populaires parmi les chercheurs parce qu'ils voient tout de suite où sont les problèmes. Par exemple, ils ont fait les bourses du retour pour les post-docs, ils ont monté les équipes, là, ils font ce qu'on appelle des programmes qui permettent à des gens qui arrivent en France de s'installer immédiatement. Et puis, ils ne sont pas axés sur une pathologie, c'est-à-dire que c'est très ouvert sur la recherche fondamentale. Et je crois que c'est très important. Et c'est beaucoup d'argent, hein. Vous savez, c'est 30 millions, 33 millions d'euros par an. Alors, on peut dire, oh, 33 millions d'euros par an, c'est pas grand-chose. En fait, c'est énorme parce que le CNRS plus l'INSERM, au niveau des sciences de la vie, c'est 1 milliard 200 millions, d'accord? Salaire compris. Ça veut dire qu'il reste 240 millions de crédits de paiement pour les laboratoires. Voilà, 240 millions, vous vous rendez compte. Alors, 30 millions, c'est une grosse somme. Voilà. Donc, et qui va à la recherche fondamentale. Basiquement, en fait, fondamentalement, à la recherche fondamentale, ça fait. Pour une grande partie, en tout cas. Et donc, oui, oui, je suis un fan de la FRM, oui. Bon, sinon, j'y serais pas, j'ai autre chose à faire. Hein. Dormir.
Par exemple, même si vous dormez peu.
Voilà. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je dors bien. Vous verrez quand vous serez grande.
Merci Alain Prochian d'être venu nous voir. Et puis donc, on attend la parution de vos prochains ouvrages et puis la collaboration de prochaines pièces et puis le développement de la start-up dont vous êtes actionnaire et de vos recherches justement sur l'aspect cognitif.
Voilà,
on verra.
On verra.
Merci à vous d'être venu jusqu'à nous et puis je l'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci à vous.